Donc, bonjour Simon, merci donc de pouvoir répondre aux questions d'Actu SF pour les Utopiales donc 2013 pour le premier volet donc de la série Media Entity.
Bonjour, merci.
Alors, avant d'entrer un peu plus précisément dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous retracer ton parcours et nous exposer comment tu en es arrivé à la BD ?
Alors, au départ, moi j'ai une formation de scénario pour l'audiovisuel. Et Media Entity, au départ, j'avais c'était un univers que j'avais pensé pour l'audiovisuel. Et puis, petit à petit, à force d'y travailler, je me suis dit bah, peut-être que la bande dessinée, ça serait pertinent pour le projet parce que ça donne une liberté que l'audiovisuel n'a pas. Et ça permet d'exprimer des choses sans contrainte. Donc quand Émilie, la dessinatrice, m'a rejoint sur le projet, voilà, on s'est dit qu'à deux on pouvait faire naître cet univers de manière indépendante et voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes influences et inspirations à ce qui a donné naissance en fait à ce projet?
Alors dans les influences, il y a aussi bien des influences de fiction, tout ce qui est cyberpunk, tout ce qui est science-fiction japonaise, je pense à Ghost in the Shell. Mm-hmm. Et puis il y a aussi des inspirations de la vie réelle, c'est la naissance des réseaux sociaux et comment est-ce que ça s'insinue dans la vie de chacun. Donc voilà, il y avait ces deux choses avec l'idée que aujourd'hui, avec l'accélération de l'information, j'ai parfois l'impression d'être de plus en plus dans le futur, de vivre de plus en plus dans le futur. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant entre guillemets avec tous les nouveaux objets qu'on nous prépare, les lunettes de réalité augmentée, les objets connectés de la vie quotidienne. Mmh. Donc voilà, il y avait cette idée de s'inspirer du réel et en l'ancrant dans un genre non pas de science-fiction mais d'anticipation réaliste. C'est comme ça qu'on définit le genre de Media Entity, voilà, de l'anticipation réaliste, c'est-à-dire que tout ce qui est fantastique reste quand même assez proche du réel.
Effectivement, on retrouve un peu dans la bande dessinée, il y a la présence des traders, il y a tout un contexte qui est un peu le nôtre finalement.
Oui, ouais, tout à fait. Et avec cette thématique qui va être le fil rouge de la série, c'est qu'est-ce qui se passerait si nos identités en ligne qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus complexes, qu'est-ce qui se passerait si ces identités en ligne s'autonomisaient et agissaient sur le réseau hors de tout contrôle.
Et justement, est-ce qu'au début, donc on est sur les réseaux, les identités en ligne, etc., et est-ce que le projet dès le départ a été pensé comme un projet multimédia?
Alors très très rapidement, oui, cette thématique de l'identité en ligne nous a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait le mettre en scène sur les différents médias, parce que c'est ça s'y prête. On a un rapport particulier à notre identité quand on est avec notre smartphone, qui est différent de quand on est sur Internet, qui est différent encore de quand on est déconnecté, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'identité en ligne. Et c'était voilà, cette thématique était assez riche en termes d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut raconter cette histoire, proposer des expériences différentes selon que ça soit des jeux sur Facebook ou un jeu de rôle papier complètement déconnecté ou le fil rouge qui est la bande dessinée. Donc c'était assez présent dès le début. Et en fait, ce qu'on a trouvé dans la bande dessinée, c'est le support, la pierre angulaire, le support matriciel. Le fil rouge en fait qui va permettre à tous les autres supports de se développer au fur et à mesure.
On trouve un peu la même chose au Japon notamment par exemple, où souvent un manga par exemple va être décliné en plusieurs autres versions, donc animé, ouais. Dessin animé, ouais. Version papier, ouais. Jeu de rôle dans certains cas. Ouais. Donc finalement, est-ce que vous vous situez un peu dans cette, donc avec Émilie pour le coup, dans ce, dans cette veine-là, le côté on va vraiment développer tout un univers autour de...
Alors je sais pas comment ça, je sais pas comment ça se passe pour au Japon. L'idée en tout cas sur Mediantity, c'était de penser les supports avant même la sortie de la bande dessinée. Il s'agissait pas de proposer une adaptation d'une série qui a fonctionné parce que c'est le début, c'est le tout début du projet. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans l'univers par différentes portes. Si on est intéressé par le jeu de rôle, ben on peut peut-être tomber, entendre parler du jeu de rôle et commencer par y jouer et s'apercevoir qu'il y a une bande dessinée. Et voilà, c'est l'idée qu'on puisse circuler comme ça de manière transversale et qu'il n'y ait aucun support qui soit une adaptation des autres, en fait. Voilà, donc. Enfin, pour revenir à ta question sur les projets comme ça qui se développent sur plusieurs supports au Japon, c'est un peu ce qui se passe aussi quand où je pense aussi à Star Wars où même les figurines font partie de intégrale de la narration. Peut-être la différence qui s'est passée pour Mediantity, c'est qu'on avait envie de le faire avant même d'avoir sorti quoi que ce soit.
Donc c'était vraiment dès le départ un projet.
Oui, en fait, pendant un petit moment, avant qu'on se consacre à la bande dessinée, on a développé le projet grâce à une bourse d'Orange qui avait une section qui s'occupait de réfléchir à qu'est-ce que pouvaient être les récits transmédia. Et donc, on leur avait envoyé Mediantity, ça les avait intéressés. Donc voilà, avec eux, on avait réfléchi un petit peu à toutes les manières d'aborder le récit par rapport à ces nouvelles technologies.
Et justement, donc, par rapport à ces nouvelles technologies, je pense notamment aussi à la réalité augmentée, qui est encore quelque chose d'assez récent au niveau de l'utilisation, etc. Est-ce que ça peut amener une nouvelle dimension à la BD, selon toi
Alors, par rapport à ça, oui, on a un point de vue assez clair, c'est que la réalité augmentée, on ne souhaite l'utiliser que dans un cadre narratif. C'est-à-dire que nous, on parle de la différence qu'il peut y avoir entre ce qui se passe sur le réseau et ce qui se passe dans la réalité, et la réalité augmentée vient mettre en scène ça. C'est-à-dire qu'on a un bouquin papier qui restera toujours le même, et ce qui va se passer en virtuel, en superposition de certaines pages du papier, va mettre en scène ce rapport entre le réseau et la réalité. Maintenant, je pense pas, même j'en suis convaincu, que ça soit ni le futur de la bande dessinée, ni un passage obligé. Ça ne nous intéresserait pas d'utiliser la réalité augmentée probablement pour un autre sujet que celui de l'identité en ligne.
Ça reste un outil qui pour le coup est adapté au sujet.
Ouais, c'est un outil de narration. C'est très important de toute façon que la technologie soit toujours soumise à la pertinence de comment on l'utilise par rapport à un récit de fiction. Ouais.
Donc justement, en revenant un peu à la technologie, enfin tout ce qui concerne l'information, etc. Donc dans la bande dessinée, on voit donc ce côté très technologique avec les ordinateurs, tout le monde, enfin avec le téléphone, le fait que les personnes sont un peu perdues sans. Et à côté de ça, tu as mis en scène un journaliste un peu à l'ancienne finalement qui travaille un peu à l'ancienne, quoi, si on peut dire. Et donc est-ce que ce décalage-là va se retrouver encore dans les suites ou...
Et oui, parce que bah déjà au début de, enfin dans le premier tome là, le journaliste il est à l'ancienne, mais il est soumis à un milieu qui avance plus vite que lui ne le voudrait, ou en tout cas ou plus vite que lui n'est capable de suivre. Et moi j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de gens, notamment dans les relations entre générations. C'est-à-dire que certaines personnes âgées peuvent connaître Internet, peut-être même certaines peuvent connaître Facebook, mais il y en a énormément pour qui ça reste de l'ordre de l'abstrait. Et à l'autre bout du spectre, il y a les enfants qui naissent, qui sont nés avec Internet, qui utilisent ça de manière extrêmement intuitive et qui développent de nouvelles manières d'être les uns avec les autres. C'est des nouveaux types de relations, ou en tout cas, voilà, il y a des nuances qui sont apportées que les anciennes générations ne peuvent même pas imaginer. Et puis après, ça pose des tas de questions, des guillemets, mais éthiques, par rapport à l'image de soi, par rapport à la vie privée, par rapport à, voilà, quand on met toutes ces informations sur Internet, qui a accès, dans quel but, quelle dérive ça peut générer, et voilà. Mais par contre, on n'a pas forcément de réponse à apporter. Par contre, c'est une question qui nous intéresse. Peut-être que j'espère qu'à la fin, on aura trouvé un petit peu la réponse et on aura peut-être une conviction par rapport à ça. Mais de toute façon, l'accélération de l'information, c'est un phénomène quasiment physique. C'est comme la gravité. Enfin, on peut pas lutter contre. Mais je pense que c'est important de se demander quel changement ça crée dans la société et chez l'être humain, parce que si on se pose pas la question, il y en a d'autres qui vont se la poser à notre place. Je pense à toutes les idéologies sur le transhumanisme, sur l'homme augmenté, sur la séparation de l'humanité en deux races, une qui sera connectée, l'autre qui le sera pas. Mmh. Tout ça, c'est des thématiques de science-fiction qui ont toujours existé, hein, l'homme, la machine, ça a toujours existé. Simplement, on est de plus en plus proche de son avènement. Mmh. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, ouais.
Et comment se passe justement la collaboration avec Émilie, justement, au niveau des échanges et de la façon dont
on travaille,
Alors,
au tout départ, l'univers, j'avais commencé à le créer tout seul. Et puis, dès qu'elle est arrivée sur le projet, on a écrit la bande dessinée tous les deux. C'est moi qui tiens le crayon, mais c'est elle qui... Mm-hmm. C'est elle qui dirige l'écriture, on va dire, parce qu'après c'est elle qui le dessine. Et une fois que le scénario est fait, elle fait son découpage. Et voilà, moi je ne sais pas tenir un crayon à part pour écrire. Donc tout ce qui est après l'étape du scénario, c'est elle qui s'en occupe. Et puis moi, je me concentre plus, voilà, sur tout ce qui est jeu de rôle, tout ce qui est on propose souvent dans les festivals des jeux de piste, ou dans la bande dessinée avec la réalité augmentée, on met en place des petites missions que le lecteur peut faire ou ne pas faire, parce que la bande dessinée peut se lire complètement indépendamment. Mais voilà, je m'occupe de tout ce qui est un petit peu transmédia, et puis Émilie de tout ce qui est graphisme.
Et est-ce que justement la collaboration avec elle s'est décidée de manière naturelle, ou comment ça s'est passé à ce niveau-là ?
Oui, c'était très naturel, d'autant plus que au tout départ, la bande dessinée, on s'est très tôt orienté vers le turbomédia. Donc turbomédia, mm-hmm. C'est un système de narration nativement numérique qui se lit sur écran. On ne prend plus un espace de page pour raconter, pour faire les dessins et les bulles. C'est un écran qui va changer au fur et à mesure où on clique. Mm-hmm. Donc des cases vont apparaître, des cases vont disparaître. Et en fait, de penser une narration de bande dessinée sur un écran, pour Émilie, c'était assez naturel, parce qu'elle vient de l'animation. Elle a fait des écoles d'animation. Et Mediantity, c'est notre première bande dessinée pour elle comme pour moi. Et voilà, moi j'étais scénariste d'audiovisuel, elle dessinatrice d'animation. Et en fait, le turbomédia venait un petit peu... nous permettre, mm-hmm. de mettre en place des compétences qu'on avait appris séparément.
Et au niveau des thématiques, justement, ça brasse relativement large. Est-ce que c'est pas difficile à cadrer, justement, parce qu'il y a aussi tout le côté transmédia avec plusieurs aspects, Et est-ce que c'est pas difficile de ne pas partir un peu dans tous les sens, justement?
Alors ça va, mais ça va simplement parce que on a eu la chance de pouvoir travailler l'univers en amont. Mmh. Et de savoir ce qu'on allait raconter sur le fil rouge qui est la bande dessinée. Et cette thématique de l'identité en ligne, en fait, ça permet de raconter énormément d'intrigues différentes, de mettre en scène énormément de personnages différents qui peuvent avoir des rapports complètement, enfin très particuliers à leur identité en ligne, soit qu'ils la rejettent, soit qu'ils veulent faire corps avec, soit qu'ils veulent fusionner avec leur identité en ligne. Et le transmédia nous permet d'explorer ça. En fait, voilà, c'est un mélange de beaucoup de préparation pour être certain d'avoir un fil rouge qui tient et un concept qui nous laisse la latitude d'improviser sur le transmédia tout en restant dans un univers cohérent.
Donc oui, ça permet d'avoir un... Je perds mes mots.
Pas très bien.
Donc ça permet justement ce que tu as dit d'avoir un... de garder un cadre, ouais, finalement, et puis de...
C'est ça, ouais.
Et un fil conducteur. Et justement, donc le projet est prévu pour plusieurs... est-ce qu'il y a un nombre défini de volumes de prévus?
Alors, il y a 4 tomes qui sont prévus. Le tome 1 est sorti là début septembre, et le tome 2 sortira fin janvier. Et donc il y a 4 tomes de prévus, et le premier cycle sera bouclé, et puis si on en a l'opportunité, on a la matière pour continuer à explorer cet univers.
Très bien. Et donc au niveau des projets, donc cette série essentiellement, j'imagine, vu qu'il y a beaucoup de...
Oui, on est à 100%, on est à 100% là-dessus, d'autant plus que le rythme de parution est assez dense. Mm-hmm. Il y a assez peu de temps entre chaque tome, et donc là jusqu'à la fin des 4 tomes, c'est notre unique projet.
Parfait, merci encore d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci.
Et au plaisir donc de te retrouver dans les différents. Partie de cet univers.
Merci
encore.